Vous êtes sur Radio Grand Ciel pour le quart d'heure réservé aux petits. Je suis Isabelle et avec la complicité de Roland à la technique, je vais vous lire le chapitre 6 du livre de Edouard Bled. J'avais un an en 1900. Edouard Bled, demandez à vos parents si le nom ne leur dit pas quelque chose. Je crois pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui n'aient pas travaillé sur le livre d'orthographe qu'il a écrit avec sa femme Odette. Mais pour l'heure, j'avais un an en 1900. La maison de ma grand-mère, construite sur une parcelle acquise avant la guerre de 1870, mes grands-parents auraient pu acheter un terrain plus près de la gare, mais ma grand-mère avait objecté. « Nous ne quittons pas Paris, son bruit et sa poussière, pour avoir les oreilles cassées par les sifflets, le ronflement des trains et en respirer les fumées. » Ils avaient fixé leur choix sur un terrain à mi-chemin de la gare et des bords de Marne. À un angle de rue où, disait ma grand-mère, « on a l'impression d'être plus libre, de mieux respirer. » Vers 1885, ils firent construire un pied-à-terre de 4 pièces, au centre une grande salle à manger à laquelle on accède par un petit escalier de 3 marches et une large porte-fenêtre. À droite un salon, à gauche une chambre à coucher. Derrière, la cuisine avec fenêtre sur la rue François-Adam. Quelques années plus tard, mes grands-parents s'y fixèrent définitivement. Mon grand-père, maître ciseleur, ayant cédé son atelier à ses 2 fils. À cette époque-là, mes parents furent expropriés de leur logement parisien, la rue de Seine devant être élargie. Ils convainquirent mes grands-parents d'agrandir leur maison de 2 étages. La maison fut donc surélevée de 2 étages, une tourelle où se logeait l'escalier compléta l'ensemble et donna à cette maison, fort simple, l'aspect d'un petit manoir, ce qui plaisait beaucoup à ma grand-mère. Comme dans toutes les autres maisons de notre quartier, il n'y avait aucun confort, mais on s'y sentait bien quand même. C'est là que je naquis, dans le lit à bateau en acajou de mes parents, un soir vers 7 heures du dernier mois de janvier du siècle passé. Le temps était doux, il pleuvait. « Un garçon !» dit le docteur Salefranc. Il n'avait pas eu besoin de me taper sur les fesses pour me faire crier, car je braillais si fort que chacun disait. « Il est plein de vie, ce sera un homme heureux, un chanteur !» Dans sa nichée de 6 garçons turbulents, ma mère souhaitait mettre au monde une fille. Si la Providence l'avait comblée, je me serais prénommée Laure, comme sa marraine, héroïne d'une belle histoire. Après qu'on eut fait ma toilette, on me présenta à ma mère, qui m'embrassa sur le front. « Comme il est grand et fort !»« Non, ce n'est pas une fille, il a pourtant de belles petites mains !» Déception d'un instant, vite effacée par son grand amour des enfants. Je fus Édouard, dit Dadar, Petit Dar, ou Édouard VII. Un fameux touche-à-tout et brise-tout tant j'étais remuant. Et si jamais ma mère avait voulu m'élever comme une fille, elle ne l'aurait pu. C'est du reste une idée qui ne l'effleura pas. Je fus présenté à mes frères alors que je dormais près de la cheminée, sur laquelle le temps se rythmait aux sonneries d'une pendule noire très ancienne. On me rapporta plus tard ce que Jacques, mon aîné de 4 ans, avait dit.
« Il est bête celui-là, il ne dit rien. »
Bientôt, il se rendit compte qu'il avait parlé trop vite. J'étais un drôle de goulu qui réclamait bruyamment à heure fixe sa ration de lait maternel. Quand il faisait beau, je prenais l'air dans un landau ou perché sur de grandes roues caoutchoutées. Mes frères se disputaient pour me promener dans les allées du jardin. Ce qui me valut un jour de passer par-dessus bord et d'atterrir dans un buisson de roses.
Comme j'étais bien matelassée, je n'eus aucun mal, mais je pleurnichais. Ma mère s'était mise à la fenêtre.
« Qu'est-ce qu'il y a encore ?»«
C'est une mouche qui l'a embêtée. » Je pris rapidement des forces, m'agitai comme un beau diable sur ma haute chaise bleue et essayai mes premiers pas vers 9 mois. À 10 mois, j'étais assurée sur mes jambes. J'ai donc marché dans le 19e siècle, élégamment coiffée d'une sorte de casque à gros bourrelets de liège pour me protéger des chocs contre les angles des meubles et des portes. Je portais une robe et, comme tous les autres petits garçons à cette époque, je fus habillée en fille jusque vers mes 3 ans. Une année s'achevait, et avec elle, le 19e siècle. Nous allions entrer dans le 20e siècle. C'était pour tous un événement d'une rare importance. Chacun était porteur de souvenirs et s'interrogeait sur l'avenir. Quand je fus en âge de comprendre et de retenir, ma mère me raconta comment s'était passée cette journée du 1er janvier 1900. Comme c'était de tradition, mon frère Marius, 9 ans, le plus jeune d'entre nous d'âge scolaire, lut à mes parents, à la clarté de la lampe-colonne, le compliment de bonne année qu'il avait rédigé et écrit lui-même sur une grande feuille de papier à bord de dentelle et ornée de fleurs, acheté pour 1 sou chez la libraire devant l'école. Mes frères s'étaient levés de bonne heure pour surprendre mes parents au lit, car ce compliment devait être, en ce début d'année, la première marque d'affection qu'ils devaient recevoir. Celle de leurs enfants avant tout autre. Et là se rejoignaient la morale de la communale et celle du catéchisme. Comme tous les autres jours, notre cuisine étant de dimensions minuscules, le couvert fut dressé dans la grande salle à manger, mais avec un soin tout particulier. Sur la toile cirée, protégeant la table en acajou, une magnifique nappe brodée par ma mère, le beau service à fleurs bleues et le service de verre en cristal. Un verre à eau, un verre à bordeaux et une coupe. Sur chaque assiette, une serviette brodée présentée en forme de chapeau de colombine. Le ciel était bas. Un peu avant midi, une brève éclaircie, le soleil parut, clignotant entre deux nuages. Georges, notre romantique frère aîné, s'écria « Le premier soleil du siècle !»«
Allons le saluer, c'est peut-être un heureux présage, » continua mon père.
Et nous voilà tous devant la fenêtre. J'étais juché sur ses larges épaules. « Regarde bien devant toi, mon petit Édouard, tu en verras des choses. » Ma mère était tout contre lui. « Dans quelques années, nous aurons notre belle maison sur notre grand jardin. »« Nous y serons bien, » compléta ma mère, « mais pourvu qu'il n'y ait pas de guerre, nos 7 fils... » Grand-mère arrivait dans sa belle robe de satin à jabot de Valenciennes, un mouchoir de dentelle dans sa manche gauche. Elle avait 65 ans, mon père 44, ma mère 36, mon frère Georges l'aîné 16, et moi, la lanterne rouge, 11 mois 13 jours. Le menu était soigné, riche de plats appétissants aux odeurs réjouissantes. Du Bordeaux Saint-Estèphe, et pour finir, du saumur pétillant et mousseux, dont ma mère m'humecta les lèvres avec un doigt trempé dans sa coupe. Ma grand-mère était encadrée de ma mère et de mon père. Pour moi, il y avait une assiette sur la table pour bien marquer ma place, mais je mangeais ma bouillie sur le plateau de ma grande chaise rose. Nous étions gais, et naturellement, à un certain moment, la conversation porta sur le passé et l'avenir, et s'y attarda.
ma grand-mère avait dit. Avec tout ce que j'ai vu et entendu, je pourrais vous raconter tout le siècle. Ma mère est née en 1800 près de Kaisersberg, sous le consulat, et moi à Sous-Forêt en 1835, sous Louis-Philippe. Dès qu'elle abordait les choses sérieuses, ce qu'elle disait avait la précision d'un document. Tant elle avait su être un témoin attentif de son temps. Sa mère avait vécu l'époque napoléonienne. L'Alsace était un lieu de passage des armées françaises allant combattre outre-Rhin, et de fringants officiers, tout chamarrés, s'étaient succédés au manoir. Le temps des épreuves était venu, et elle avait connu l'épopée des patriotes alsaciens et vosgiens qui avaient tenté de barrer le passage des cols des Vosges aux armées prussiennes, autrichiennes et russes. Cela avait été la Restauration avec ses fautes, son mariage malheureux, et en 1840, avec ses deux filles, elle avait dû quitter Mulhouse pour Paris. Pour voyager, toutes trois avaient pris la diligence. C'est ainsi qu'après plusieurs jours de relais en relais, ballottés et meurtris, dans une inconfortable voiture de poste tirée par 6 chevaux et conduite par 2 postillons dont un sur un cheval de tête, tous deux portant d'un costume pittoresque, de hautes et épaisses bottes de cuir et coiffées d'un chapeau de cuir bouilli à boucle, elles étaient descendues rue du Boulot, siège de la compagnie des diligences qui sillonnait toute la France. Georges avait fait remarquer. Des postillons? Des personnages de comédie? Oui, maintenant, mais pas en 1840. Puis elle avait souligné. Aujourd'hui, avec le train, de Mulhouse à Paris, je mettrai quelques heures. Ma grand-mère avait assisté dans la foule aux cérémonies du retour des cendres de Napoléon Ier, vécu les journées d'émeute de février 1848 et de décembre 1851. Les fusillades, les poursuites dans les rues tortueuses. Elle avait rencontré Joseph Iselier, maître ciseleur, et s'était mariée en 1855 à 20 ans en crinoline blanche. Vos parents, Alexandre, assistaient à mon mariage. Depuis 40 ans, ils étaient liés à la famille de mon mari. À la sortie de la messe, votre père Honoré et Auguste, le père de Joseph, qui avaient apporté leur trompe de chasse, sonnèrent une joyeuse fanfare. Le chapitre continue, mais malheureusement, il est déjà l'heure pour moi de vous dire au revoir. Alors, à bientôt, j'espère. Merci Roland à la technique.